Chapitre 7. Le nouveau venu était un grand et gros homme de 27 ans, au visage bouffi, blême et soigneusement rasé. Ses cheveux d'un blond presque blanc se tenaient droit sur sa tête. Il avait des lunettes et à l'index de son épaisse main brillait un gros anneau d'or. On voyait qu'il aimait à être à l'aise dans ses vêtements, d'ailleurs d'une élégance cossue. Il portait un ample paletot en drap léger et un large pantalon d'été d'une couleur claire. Son linge était irréprochable et une lourde chaîne de montre en or se jouait sur son gilet. Il y avait dans ses allures quelque chose de lent et de flegmatique, quelques efforts qu'il fit pour se donner un air dégagé. Du reste, en dépit de sa surveillance sur lui-même, la prétention perçait continuellement dans ses manières. Toutes ses connaissances le trouvaient insupportable et faisaient grand cas de lui en tant que médecin. J'ai passé deux fois chez toi, mon ami, tu dois... Il a repris ses sens, cria Razoumikhine.
Je le vois. Eh bien, comment nous sentons-vous aujourd'hui, hein ?
Demanda Zosimov à Raskolnikov, qu'il regarda avec attention. En même temps, il s'installait au bout du divan, près des pieds du malade, s'efforçant de trouver là une place suffisante pour son énorme personne.
« Mais il est toujours hypochondriaque, » poursuivit Razoumikhine. « Tout à l'heure, quand nous l'avons changé de linge, il s'est presque mis à pleurer. »«
Oh, la chose se comprend, on pouvait faire cela plus tard, il n'était pas nécessaire de le contrarier. »
« Oh, le pouls est excellent. Nous avons toujours un peu mal à la tête, hein ?»«
Je me porte bien, je me porte parfaitement, » dit Raskolnikov avec irritation. En prononçant ces mots, il s'était tout à coup soulevé sur le divan et ses yeux étincelaient. Mais moins d'une seconde après, il retomba sur son oreiller et se tourna du côté du mur. Zosimov le considérait attentivement.
« Très bien, rien de particulier à noter, » déclara-t-il négligemment. « A-t-il mangé quelque chose ?»
On raconta le repas fait par le malade et l'on demanda ce qu'on pouvait lui donner.
« Ben, on peut lui donner n'importe quoi, de la soupe, du thé. Naturellement, les champignons et les concombres lui sont interdits, il ne faut pas non plus... qu'il mange de bœuf, ni... Oh, mais c'est là du bavardage superflu. »
Et il échangea un regard avec Razoumikhine.
Et plus de potions, plus de médicaments, et demain je viendrai voir. On aurait pu aujourd'hui... Allons, c'est bien.
Demain soir, je lui ferai faire une promenade, décida Razoumikhine. Nous irons ensemble au jardin Youssoupov et ensuite au ballet de cristal.
Oh, demain ce serait peut-être un peu tôt, mais une petite sortie. D'ailleurs, d'ici là, nous verrons.
Ce qui m'évexe, c'est qu'aujourd'hui justement, je prends la crémaillère à deux pas d'ici. Je voudrais qu'il fût des nôtres quand il devrait rester couché sur un divan.
« Tu viendras, toi ?» demanda brusquement Razoumikhine à Zosimov. « T'as promis, hein, tu vas pas me manquer de parole. »« Soit, je ne pourrais venir qu'assez tard. Tu donnes une fête ?»«
Oh, rien du tout, il y aura simplement du thé, de l'eau de vie, des harengs et un pâté. C'est une petite réunion d'amis. »«
Quels seront tes hôtes ?»« Oh, des camarades, des jeunes gens. » Plus un vieil oncle à moi qui est venu pour affaire à Pétersbourg. Il n'est ici que depuis hier. Nous le voyons une fois tous les 5 ans.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Il a végété toute sa vie dans un district où il était maître de poste. Il touche une petite pension. Oh, il a 65 ans. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Je l'aime du reste. Il y aura chez moi Porfir Petrovitch, le juge d'instruction du quartier, un juriste. Mais tu le connais, au fait. Il est aussi ton parent, très éloigné, mais
Pourquoi fronce-t-il le sourcil? Parce qu'un jour, alors que vous êtes chamaillés ensemble, tu es dans le cas de ne pas venir? Oh, oh, je me moque pas mal de lui. Ben, c'est ce que tu peux faire de mieux. Bref, j'aurai les étudiants, un professeur, un employé, un musicien, un offensier, un officier Zametov. Dis-moi, je te prie, ce que toi ou lui, Zassimov montra d'un signe de tête à Raskolnikov, vous pouvez avoir de commun avec un Zametov. Eh bien oui, si tu veux que je te le dise, il y a quelque chose de commun entre Zametov et moi. Nous avons entrepris une affaire ensemble. Oh, je serais curieux de savoir quoi. Mais c'est toujours à propos du peintre en bâtiment. Nous travaillons à sa mise en liberté. À présent, du reste, cela ira tout seul. L'affaire est maintenant parfaitement claire. Notre intervention aura seulement pour effet de presser le dénouement. De quel peintre en bâtiment s'agit-il? Comment? Est-ce que je t'en ai pas déjà parlé? Ah oui, c'est vrai, je ne t'ai raconté que le commencement. Ben voilà, c'est au sujet du meurtre de la vieille prêteuse sur gage. Eh bien, on a arrêté le peintre comme auteur du crime. Ah oui, avant ton récit, j'avais déjà entendu parler de cet assassinat, et même l'affaire m'intéresse jusqu'à un certain point. J'en ai lu quelque chose dans les journaux. Ah, voilà. Mais on a aussi tué Elisabeth, fit tout à coup Nastasia en s'adressant à Raskolnikov. Elle n'avait pas quitté la chambre et, debout près de la porte, prêtait l'oreille à la conversation. Elisabeth, balbutia le malade d'une voix presque inintelligible. Oui, Elisabeth, la revendeuse à la toilette. Est-ce que tu ne la connaissais pas? Mais elle venait ici en bas, elle t'a même fait une chemise. Raskolnikov se tourna du côté du mur et se mit à fixer avec toute l'attention possible une des petites fleurs blanches semées sur le papier qui tapissait sa chambre. Il sentait ses membres s'engourdir, mais il n'essayait pas de se remuer et son regard restait obstinément attaché sur la petite fleur. Eh bien, ce peintre qui est impliqué dans l'affaire, on a relevé les charges contre lui, sans doute, dit Zassimov, interrompant avec une impatience marquée le bavardage de Nastasia, qui soupira et se tut. Oui, mais des charges qui n'en sont pas. Voilà précisément ce qu'il s'agit de démontrer. La police fait fausse route ici, comme elle s'est déjà trompée au début quand elle a soupçonné Koch et Pestlirkov. Pour si désintéressé qu'on soit dans la question, on se sent révolté en voyant une enquête si bêtement conduite. Oh, Pestlirkov viendra peut-être chez moi ce soir. À propos, Rodia, tu connais cette histoire? Elle est arrivée avant ta maladie, justement la veille du jour où tu as eu un évanouissement au bureau de police pendant qu'on en parlait. Zassimov regarda curieusement Raskolnikov, qui ne bougea pas. Ah, il faudra que j'ai l'œil sur toi, Razoubikine. Tu t'emballes joliment pour une affaire qui ne te regarde pas, observa le docteur. Bon, c'est possible, mais n'importe. Nous tirons ce malheureux des griffes de la justice, s'écria Razoubikine en frappant du poing sur la table. Ce ne sont pas les bévues de ces gens-là qui méritent le plus. Il est permis de se tromper, l'erreur est chose excusable, car par elle on arrive à la vérité. Non, ce qui me fâche, c'est que tout en se trompant, ils continuent à se croire infaillibles. J'estime Porfirme, mais... Tiens, sais-tu par exemple ce qui les a déroutés tout d'abord? La porte était fermée. Or, quand Koch et Pestlirkov sont arrivés avec le dvornik, elle était ouverte. Donc Koch et Pestlirkov sont les assassins. Voilà leur logique. Oh, ne t'échauffe pas. On les a arrêtés, on ne pouvait pas faire autrement. À propos,
J'ai eu l'occasion de rencontrer ce coq. Il paraît qu'il était en relation d'affaires avec la vieille. Il lui rachetait les objets non dégagés à l'échéance. Oh oui, c'est un nègre fin, un personnage véreux. Il rachète aussi les lettres de change. Bon, sa mésaventure ne m'émeut en aucune façon, mais je m'emporte contre les agissements idiots d'une procédure démodée. C'est le cas ici d'ouvrir une nouvelle voie et de renoncer à une routine qui a fait son temps. Les seules données psychologiques peuvent mettre sur la vraie piste. Nous avons des faits, dit-il, mais les faits ne sont pas tout. La manière de les interpréter est pour moitié au moins dans le succès d'une instruction. Ah, et toi, tu sais interpréter les faits? Oh, vois-tu, il est impossible de se taire quand on sent, quand on a l'intime conviction qu'on pourrait t'aider à la découverte de la vérité, si. Et tu connais les détails de l'affaire? Bon, tu m'avais parlé d'un peintre en bâtiment. J'attends toujours son histoire. Eh bien, écoute. Le surlendemain du meurtre, dans la matinée, tandis que la police instruisait encore contre Kark et Pestriakov, malgré les explications parfaitement catégoriques fournies par eux, surgit tout à coup un incident des plus inattendus. Un certain Douchkine, paysan qui tient un cabaret en face de la maison du crime, apporta au commissariat un écrin renfermant des boucles d'oreilles en or, et il raconta toute une histoire. Avant-hier soir, un peu après 8 heures, remarque cette coïncidence, Nikolai, un ouvrier peintre qui fréquente mon établissement, est venu me prier de lui prêter 2 roubles sur les boucles d'oreilles contenues dans cette petite boîte. À ma question, mais où as-tu pris cela? Il a répondu qu'il l'avait ramassé sur le trottoir. Je n'en ai pas demandé davantage. C'est Douchkine qui parle. Et je lui ai donné un petit billet, c'est-à-dire 1 rouble. Car, me suis-je dit, si je ne prends pas cet objet, un autre le prendra. Et il vaut mieux qu'il soit entre mes mains. Si l'on vient à le réclamer, si j'apprends qu'il a été volé, j'irai le porter à la police. Bien entendu, en parlant ainsi, il mentait effrontément. Là, je connais ce Douchkine. C'est un receleur, et quand il a subtilisé à Nikolaï un objet de 30 roubles, il n'avait nullement l'intention de le remettre à la police. Mais il ne s'est décidé à cette démarche que sous l'influence de la peur. Mais laissons Douchkine poursuivre son récit. Ce paysan, qui s'appelle Nikolaï Dementiev, je le connais depuis l'enfance. Il est comme moi du gouvernement de Riazan et du district de Zalaïsk. Sans être un ivrogne, il boit quelquefois un peu trop. Nous savions qu'il faisait des travaux de peinture dans cette maison avec Mitrei, qui est de son pays. Et après avoir reçu le petit billet, Nikolaï a bu coup sur coup 2 verres, échangé son rouble pour payer et est parti en emportant la monnaie. Je n'ai pas vu Mitrel avec lui à cette heure-là. Et le lendemain, nous avons entendu dire qu'on avait tué à coups de hache Alena Ivanovna et sa sœur Elisabeth Ivanovna. Nous les connaissions, et alors un doute m'est venu au sujet des boucles d'oreilles, parce que nous savions que la vieille prêtait de l'argent sur des objets de ce genre. Alors pour éclaircir mes soupçons, je me suis rendu dans cette maison sans faire semblant de rien. Et tout d'abord, je lui ai demandé si Nikolaï était là. Ben, Mitraille m'a répondu que son camarade faisait la noce. Nikolaï était rentré chez lui, ivre à la première heure du jour, et au bout de 10 minutes environ, il était sorti de nouveau. Depuis ce temps-là, Mitraille ne l'avait plus vu, et il achevait seul le travail. L'escalier qui conduit chez les victimes dessert aussi le logement où travaillaient les 2 ouvriers. Et ce logement est situé au second étage. Ayant appris tout cela, je n'ai rien dit à personne. C'est Douchkine qui parle. Mais j'ai recueilli le plus de renseignements possibles sur les circonstances de l'assassinat
Je suis revenu chez moi, toujours préoccupé du même doute. Or, ce matin, à 8 heures, c'est-à-dire le surlendemain du crime, tu comprends, je vois Nikolaï entrer dans mon établissement. Il avait bu, mais il n'était pas trop ivre et pouvait comprendre ce qu'on lui disait. Il s'assied en silence sur un banc. Quand il est arrivé, il n'y avait dans mon cabinet qu'un seul client, un habitué qui dormait sur un autre banc. Je parle pas de mes deux jeunes garçons. « As-tu vu Mitrei ?» demandai-je à Nikolaï. « Non, dis-tu, je n'ai pas vu. Et tu n'es pas venu travailler ici ?»« Je suis pas venu depuis avant-hier, » répondit-il. « Mais cette nuit, où as-tu couché ?»« Au sable, chez les Kolomensky. » « Et où as-tu pris les boucles d'oreilles que tu m'as apportées l'autre jour ?»« Ben, je les ai trouvées sur un trottoir, » fait-il d'un air tout drôle en évitant de me regarder. « Mais as-tu entendu dire que ce même soir, vers la même heure, il s'est passé telle et telle chose dans le corps de bâtiment où tu travaillais ?»« Oh non, » dit-il, « on savait rien. » Alors je lui raconte les faits, qu'il écoute en écarquillant les yeux. Tout à coup, je le vois devenir blanc comme un morceau de craie, il prend son bonnet et se lève. Je veux le retenir. « Oh, attends un peu, Nikolaï, » lui dis-je. « Est-ce que tu boiras pas un verre ?» En même temps, je fais signe à mon garçon d'aller se placer devant la porte et je quitte mon comptoir. Mais devinant sans doute mes intentions, il s'élance hors de la maison, prend sa course et un instant après disparaît au tournant d'une rue. Dès lors, je n'ai plus douté qu'il ne fût coupable. Ah, je crois bien, dit Zosimov. Attends, écoute la fin. Naturellement, la police s'est mise à chercher Nikolaï de tous côtés. On s'est assuré de Douchkin et de Mitrei. On a fait des perquisitions chez eux. On a aussi tout retourné chez les Kolomensky, mais c'est avant-hier seulement que Nikolaï lui-même a été arrêté dans une auberge de la barrière à la suite de circonstances curieuses. Arrivé dans cette auberge, il avait ôté sa croix, qui était en argent, l'avait remise au patron et s'était fait servir un chalik d'eau-de-vie. Quelques minutes après, une paysanne vit traire les vaches, et en regardant par une fente dans une remise voisine de l'étable, elle aperçoit le pauvre diable en train de se pendre. Il avait fait un nœud coulant à sa ceinture, avait attaché celle-ci à une solive du plafond et monté sur un bloc de bois, essayait de passer son cou dans le nœud coulant. Au cri poussé par la femme, les gens accourent. « Ah si, voilà à quoi tu passes ton temps. « Conduisez-moi, dit-il, à tel bureau de police, j'avouerai tout. » On fait droit à sa demande et, avec tous les honneurs dus à son rang, on l'emmène au bureau de police indiqué, c'est-à-dire à celui de notre quartier. Et là commence l'interrogatoire d'usage. « Qui es-tu? Quel âge as-tu? 22 ans, etc. » demande « Et pendant que tu travailles avec Mitrei, vous n'avez vu personne en escalier entre telle et telle heure ?» Réponse « Bon, il est peut-être passé les gens, mais nous ne les avons pas remarqués. Et vous n'avez entendu aucun bruit ?»« Oh non, nous n'avons rien entendu de particulier. Mais toi, Nikolaï, as-tu vu ce jour-là qu'à telle heure on avait tué et dévalisé telle veuve et sa sœur ?»« Oh, j'en savais absolument rien. » J'en ai eu la première nouvelle avant-hier au cabaret par Afanas Pavlitch. Et où as-tu pris les boucles d'oreilles? Je les ai trouvées sur le trottoir. Et pourquoi le lendemain n'es-tu pas allé travailler chez Mitrei? Parce que j'ai fait la noce. Et où as-tu fait la noce? En différents endroits. Et pourquoi t'es-tu sauvé de chez Douchkin? Parce que j'avais peur. De quoi avais-tu peur? Ben, je craignais de passer en jugement. Mais comment donc pouvais-tu craindre si cela, tu ne ressens coupable de rien?
Eh bien, tu le croiras ou tu le croiras pas, Zosimov. Cette question a été posée et littéralement, ces termes-là, je le sais positivement, on m'en a fait le compte-rendu textuel de l'interrogatoire. Hein, comment la trouves-tu? Mais enfin, les preuves sont là. Il ne s'agit pas des preuves en ce moment. Il s'agit de la question faite à Nicolas, de la manière dont les gens de police comprennent la nature humaine. Allons, c'est bien. Laissons cela. En résumé, ils ont tellement tourmenté ce malheureux qu'il a fini par avouer. Ben, c'est pas sur le trottoir que j'ai trouvé ces boucles d'oreilles, mais dans l'appartement où je travaillais avec Mitrey. Mais comment as-tu fait cette trouvaille? Ben, Mitrey et moi, nous avions peint toute la journée. Il était 8 heures. Et nous allions partir quand Mitrey prend un pinceau, me le passe sur la figure et se sauve après m'avoir ainsi barbouillé. Je me lance à sa poursuite, je descends les escaliers, 4 à 4, en criant comme un perdu. Mais au moment où j'arrivais en bas de toute la vitesse de mes jambes, je bouscule le dvornik et les messieurs qui se trouvaient là aussi. Oh, je me rappelle plus combien il y en avait. Là-dessus, le dvornik me dit des injures. Un autre dvornik m'injurie également. La femme du premier sort de sa loge et fait chorus avec eux. Enfin, un monsieur qui entrait dans la maison avec une dame nous invective à son tour, Mitka et moi, parce que nous étions étendus en travers de la porte et barrions le passage. J'avais saisi Mitka par les cheveux, je l'avais jeté à terre et je lui donnais des coups de poing. Il m'avait pris aussi par les cheveux et me cognait de son mieux tout en étant sous moi. Nous faisions cela sans méchanceté, histoire de rire. Ensuite, Mitka se dégagea et fila dans la rue. Je courus après lui, mais je n'ai pas pu le rattraper. Je retournais seul à l'appartement parce que j'avais mes affaires à mettre en ordre. Et tandis que je les rangeais, j'attendais Mitka. Je croyais qu'il allait revenir. Et voilà que dans le vestibule, au coin, près de la porte, je marche sur quelque chose, je regarde. C'était un objet enveloppé dans du papier. J'enlève le papier et je trouve une boîte renfermant des boucles d'oreilles. Derrière la porte. Elle était derrière la porte. Derrière la porte ? S'écria tout à coup Raskolnikov en regardant avec effroi Razoutvikhine, tandis qu'il faisait effort pour se soulever sur le divan. Oui ? Eh bien quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi es-tu ainsi ? Dit Razoutvikhine en se levant lui aussi de son siège. Oh, n'est rien ! Eut à peine la force de répondre Raskolnikov, qui se laissa retomber sur l'oreiller et se tourna de nouveau du côté du mur. Tous restèrent quelque temps silencieux. « Oh, il était à moitié endormi, sans doute, » dit enfin Razoutvikhine en interrogeant du regard Zosimov. Celui-ci fit de la tête un petit signe négatif. « Eh bien, continue donc, » dit le docteur après. « As-tu seul reste ?» Dès qu'il s'est vu en possession de ses boucles d'oreilles, il a pu penser ni à sa besogne ni à Mitka. Il a pris son bonnet et est allé immédiatement chez Douchkine. Et comme je te l'ai dit, il s'est fait donner un rouble par ce cabaretier et lui a faussement raconté qu'il avait trouvé la boîte sur le trottoir. Ensuite, il est parti faire la noce. Mais en ce qui concerne le meurtre, son langage ne varie pas. « Je ne sais rien, » répète-t-il toujours, « j'ai appris la chose que le surlendemain seulement. » « Mais pourquoi donc as-tu disparu tous ces temps-ci ? » « Parce que j'osais pas me montrer. »« Et pourquoi voulais-tu te pendre ? » ?»«
Parce que j'avais peur. »
« Mais de quoi avais-tu peur ? » ?»«
Mais d'être mis en jugement. »
Voilà toute l'histoire. Maintenant, Quelle conclusion en ont-ils tiré, penses-tu?
Oh, que veux-tu que je pense?
Il y a une présomption discutable, peut-être, mais qui n'en existe pas moins.
Il y a un fait.
Fallait-il qu'ils rendissent la liberté à ton peintre en bâtiment?
Mais c'est qu'ils l'ont carrément inculpé d'assassinat. Il ne reste plus le moindre doute.
Oh oui, on ne t'échauffe pas. Tu oublies les boucles d'oreilles.
Le même jour, peu d'instants après le meurtre, des boucles d'oreilles qui se trouvaient dans le coffre de la victime ont été vues entre les mains de Nicolas.
Convié en toi-même, on doit nécessairement se demander comment il se les est procurées.
C'est une question que le magistrat instructeur ne peut négliger d'éclaircir.
Comment il se les est procurées? S'écria la joute Mérine.
Mais comment il se les est procurées, voyons, docteur?
Tu es tenu avant tout d'étudier l'homme. Tu as plus que toute autre l'occasion d'approfondir la nature humaine, eh bien. Se peut-il que tu ne vois point, d'après toutes ces données, quelle est la nature de ce Nicolas?
Comment ne sens-tu pas, a priori, que toutes les déclarations faites par lui au cours de ses interrogatoires sont la vérité la plus pure?
Il s'est procuré les boucles d'oreilles exactement comme il le dit. Il a marché sur la boîte et il l'a ramassée.
Oh, la vérité la plus pure.
Pourtant, lui-même a reconnu qu'il avait menti la première fois.
Écoute-moi, écoute-moi attentivement. Le dvornik, Koch Petriakov, l'autre dvornik, la femme du premier, la marchande qui se trouvait alors avec elle dans la loge, le conseiller de cour Krupkov, qui en ce moment même venait de descendre de voiture et entrait dans la maison avec une dame à son bras, tous, c'est-à-dire 8 ou 10 témoins, déposent d'une commune voix que Nicolas a jeté Dimitri par terre et le tenant sous lui l'a bourré de coups de poing tandis que Dimitri avait pris son camarade par les cheveux et lui rendait l'appareil. Ils sont couchés en travers de la porte et interceptent le passage. On les injurie de tous côtés et eux, comme de petits enfants, c'est l'expression textuelle des témoins, crient, se gourment, poussent des éclats de rire et se poursuivent l'un et l'autre dans la rue ainsi que l'eussent fait des gamins. Tu entends? Alors à présent remarque ceci. En haut, gisent 2 cadavres, non encore refroidis. Note qu'ils étaient encore chauds quand on les a découverts. Si le crime a été commis par les 2 ouvriers ou par Nicolas tout seul, permets-moi de te poser une question. Comprend-on une telle insouciance, une telle liberté d'esprit chez les gens qui viennent de commettre un assassinat suivi de vol? N'y a-t-il pas incompatibilité entre ces cris, ces rires, cette lutte enfantine et la disposition morale dans laquelle auraient dû se trouver les meurtriers?
Quoi, 5 ou 10 minutes après avoir tué, car je le répète, on a trouvé les cadavres encore chauds, ils s'en vont sans même fermer la porte de l'appartement où gisent leurs victimes, et sachant que les gens montent chez la vieille, ils folâtrent sous la porte cochère. Au lieu de fuir au plus vite, ils barrent le passage, ils rient, ils attirent sur eux l'attention générale, ainsi que 10 témoins sont unanimes déclarés.
Ben, sans doute, ça est étrange. Cela paraît impossible, mais...
Ben, il n'y a pas de mais, mon ami. Je reconnais que les boucles d'oreilles trouvées entre les mains de Nicolas, peu d'instants après le crime, constitue à sa charge un fait matériel sérieux. Fait d'ailleurs expliqué d'une façon plausible par les déclarations de l'accusé et, comme tel, sujet à discussion. Encore, faut-il aussi prendre en considération les faits justificatifs, d'autant plus que ceux-ci sont hors de discussion. Malheureusement, étant donné l'esprit de notre jurisprudence, nos magistrats sont incapables d'admettre qu'un fait justificatif fondé sur une pure impossibilité psychologique puisse détruire des charges matérielles, quelles qu'elles soient.
Non, ils n'admettront jamais cela, par la raison qu'ils ont trouvé la boîte et que l'homme a voulu se pendre, ce à quoi il n'aurait pu songer s'il ne s'était pas senti coupable. Voilà la question capitale. Voilà pourquoi je m'échauffe, comprends-tu?
Ben oui, je vois bien que tu t'échauffes. Attends un peu. Il y a une chose que j'avais oublié de te demander. Qu'est-ce qui prouve que l'écrin renfermant les boucles d'oreilles a été pris en effet chez la vieille? Bon, cela est prouvé, reprit en rechignant à la Zoudmirine. Corche a reconnu l'objet et indiqué celui qui l'avait mis en gage. De son côté, ce dernier a prouvé péremptoirement que l'écrin lui appartenait. Tant pis. Encore une question. Quelqu'un n'a-t-il pas vu Nicolas pendant que Koch et Pestriakov montaient au quatrième étage et son alibi ne peut-il pas être établi? Ben, le fait est que personne ne l'a vu, répondit d'un ton fâché Rasmikhine. Voilà ce qu'il y a de désolant. Koch et Pestriakov même n'ont pas aperçu les ouvriers en montant l'escalier. D'ailleurs, à présent, leur témoignage ne signifierait pas grand-chose. « Nous avons vu, disent-ils, que l'appartement était ouvert et qu'on y travaillait probablement, mais nous avons passé sans faire attention et ne nous rappelons pas s'il s'y trouvait ou non des ouvriers en ce moment. Ainsi, toute la justification de Nicolas repose sur les rires et les coups de poing qu'il échangeait avec son camarade. » Soit, c'est une forte preuve à l'appui de son innocence, mais... Permets-moi maintenant de te demander comment tu te rends compte du fait. En tenant pour vrai la version de l'accusé, comment expliques-tu la trouvaille des boucles d'oreilles? Comment je l'explique? Mais qu'y a-t-il à expliquer ici? L'affaire est claire, du moins... La route est clairement indiquée à l'instruction et indiquée précisément par l'écrin. Le vrai coupable a laissé tomber ses boucles d'oreilles. Il était en haut quand Koch et Pestriakov ont cogné à la porte. Il s'était enfermé au verrou. Koch a fait la bêtise de descendre, alors l'assassin s'est esquivé de l'appartement et est descendu lui aussi, attendu qu'il n'avait pas d'autre moyen de s'échapper. Sur l'escalier... Il s'est dérobé à la vue de Karl, de Pestriakov et du Dvornik, en se réfugiant dans le logement du second étage, juste au moment où les ouvriers venaient d'en sortir. Il s'est caché derrière la porte, pendant que le Dvornik et les autres montaient chez la vieille. Il a attendu que le bruit de leurs pas cessât de se faire entendre, et il est arrivé fort tranquillement au bas de l'escalier, à l'instant même où Dmitri et Nicolas à la suite s'élançait dans la rue. Et comme tout le monde s'était dispersé, il n'a rencontré personne sous la porte cochère. Il se peut même qu'on l'ait vu, mais on ne l'a pas remarqué. Est-ce qu'on fait attention à toutes les personnes qui entrent dans une maison ou qui en sortent? Quant à l'écrin, il l'a laissé tomber de sa poche pendant qu'il se tenait derrière la porte. Il ne s'en est pas aperçu, parce qu'il avait alors d'autres choses à fouetter. L'écrin démontre donc clairement que le meurtrier s'est caché dans le logement vide du second étage. Et voilà tout le mystère expliqué. C'est ingénieux, mon ami. Cela fait honneur à ton imagination. C'est surtout ingénieux. Mais pourquoi donc, pourquoi? Ben parce que... Tous les détails sont trop bien agencés. Toutes les circonstances se présentent avec trop d'à-propos. C'est exactement comme au théâtre. Razoumikhine allait de nouveau protester, mais soudain la porte s'ouvrit et les trois jeunes gens virent apparaître un visiteur qu'aucun d'eux ne connaissait. C'était un monsieur déjà d'un certain âge, au maintien gourmé, à la physionomie réservée et sévère. Il s'arrêta d'abord sur le seuil, promenant ses yeux autour de lui avec une surprise qu'il ne cherchait pas à dissimuler et qui n'en était que plus désobligeante. « Où me suis-je donc fourré ? » avait-il l'air de se demander. C'était avec défiance et même avec une affectation de frayeur
qu'il contemplait la pièce étroite et basse où il se trouvait. Son regard conserva la même expression d'étonnement lorsqu'il se porta ensuite sur Raskolnikov. Le jeune homme, dans une tenue très négligée, était couché sur son misérable divan. Il ne fit pas mouvement et se mit à considérer à son tour le visiteur. Puis ce dernier, gardant toujours sa mine hautaine, examina la barbe inculte et les cheveux ébouriffés de la Zoumirkine, qui de son côté, sans bouger de sa place, le dévisagea avec une curiosité impertinente. Durant une minute régna un silence gênant pour tout le monde. À la fin, comprenant sans doute que ses grands airs n'en imposaient à personne, le monsieur s'humanisa un peu et poliment, quoique avec une certaine raideur, s'adressa à Zossimov.
Rodion Romanovitch Raskolnikov, un monsieur qui est étudiant ou ancien étudiant ? Demanda-t-il en pesant sur chaque syllabe. Zossimov se souleva lentement, et peut-être aurait-il répondu si Razoumikhine, à qui la question n'était point faite, ne se fût empressé de le prévenir. « Ben voilà, il est sur le divan. Mais vous, qu'est-ce qu'il vous faut ?» Oh, le sans-gêne de ces derniers mots froissa le monsieur aux airs importants. Il ébaucha un mouvement dans la direction de Razoumikhine, mais il se retint à propos et se retourna vivement vers Zossimov. « Oui, voilà Raskolnikov, » dit négligemment le docteur en montrant le malade d'un signe de tête. Puis il bâilla à se décrocher la mâchoire, tira de son gousset une énorme montre en or, la regarda et la remit dans sa poche. Quant à Raskolnikov, toujours couché sur le dos, il ne disait mot et ne cessait de tenir ses yeux fixés sur le nouveau venu, mais toute pensée était absente de son regard. Depuis qu'il s'était arraché à la contemplation de la petite fleur, son visage, excessivement pâle, trahissait une souffrance extraordinaire. On eût dit que le jeune homme venait de subir une opération douloureuse ou d'être soumis au supplice de la question. Peu à peu, toutefois, la présence du visiteur éveilla en lui un intérêt croissant. Ce fut d'abord de la surprise, puis de la curiosité, finalement une sorte de crainte. Lorsque le docteur lui montrait en disant « Voilà Raskolnikov », notre héros se souleva tout à coup, s'assit sur le divan, et d'une voix faible et entrecoupée, mais où perçait comme un accent de défi, « Oui, déclara-t-il, je suis Raskolnikov, que voulez-vous ? » Le monsieur le considéra avec attention et répondit d'un ton digne. « Pierre Pietrovitch Loujine, j'ai lieu d'espérer que mon nom ne vous est plus tout à fait inconnu. » Mais Raskolnikov, qui s'était attendu à tout autre chose, se contenta de regarder son interlocuteur silencieusement et d'un air hébété, comme si le nom de Pierre Pietrovitch eût pour la première fois frappé ses oreilles. « Comment se peut-il que vous n'ayez pas encore entendu parler de moi ?» demanda Loujine un peu déconcerté. Pour toute réponse, Raskolnikov s'affaissa lentement sur l'oreiller, mit ses mains derrière sa tête et fixa les yeux au plafond. L'embarras était visible sur la figure de Pierre Pietrovitch. Zossimov et Ramouskine l'observaient à une curiosité de plus en plus grande, ce qui acheva de les décontenancer. Je présumais, je comptais, balbutia-t-il, qu'une lettre mise à la poste il y a 10 jours, peut-être 15. Ah, écoutez, pourquoi toujours rester près de la porte ? Interrompit brusquement la Zoutsmikrine. Si vous avez quelque chose à expliquer, eh bien, asseyez-vous. Mais Nastasia et vous, vous ne pouvez pas vous tenir tous les deux sur le seuil, il est trop étroit. Nastasiushka, range-toi, laisse passer. Avancez, voici une chaise, faufilez-vous. Il écarta sa chaise de la table, laissa un petit espace libre entre celle-ci et ses genoux, puis attendit dans une position assez gênante que le visiteur se faufilât dans ce passage. Il n'y avait pas moyen de refuser. Pierre Petrovitch se glissa non sans peine jusqu'à la chaise et après s'être assis, regarda d'un air défiant la Zoubirkhine. « Oh, du reste, vous gênez pas, » dit celui-ci d'une voix forte. « Rodia est malade depuis 5 jours déjà, et il a eu le délire pendant 3 jours, mais maintenant la connaissance lui est revenue. Il a même mangé avec appétit. Voilà son médecin. Moi, je suis un camarade de Rodia, ancien étudiant comme lui, et en ce moment, je lui sers de garde malade. Ainsi, ne faites pas attention à nous et continuez votre entretien comme si nous n'étions pas là. » Je vous remercie, mais ma présence et ma conversation n'auront-elles pas pour effet de fatiguer le malade ?» demanda Pierre Petrovitch en s'adressant à Zossimov. « Non, non, au contraire, ce sera une distraction pour lui, » répondit d'un ton indifférent le docteur, et il bâilla de nouveau. Bon, il a recouvré l'usage de ses facultés depuis longtemps déjà, depuis ce matin, ajouta la Zoubirkhine dont la familiarité respirait une bonhomie si franche que Pierre Petrovitch commença à se sentir plus à l'aise. Et puis après tout, cet homme incivil et mal vêtu se recommandait de la qualité d'étudiant. Votre maman. Fit bruyamment la Zoubirkhine. Loujine le regarda d'un air surpris. « Oh rien, c'est un tic, continuez. » Loujine haussa les épaules. « Mais votre maman avait commencé une lettre pour vous déjà avant mon départ. Arrivé ici, j'ai exprès différé ma visite de quelques jours pour être bien sûr que vous seriez instruit de tout. » Mais maintenant, je vois avec étonnement. Oh, je sais, répliqua brusquement Raskolnikov, dont le visage exprima une violente irritation. C'est vous qui êtes le futur. Eh bien, je le sais, en voilà assez. Ce langage blessa décidément Pierre Petrovitch, mais il garda le silence, se demandant ce que tout cela signifiait. La conversation fut momentanément interrompue. Cependant, Raskolnikov, qui pour lui répondre s'était légèrement tourné de son côté, se remit soudain à l'examiner avec une attention marquée, comme s'il n'avait pas eu le temps de le bien voir tantôt ou que quelque chose de nouveau lui frappait dans la personne du visiteur. Il se souleva donc sur le divan pour le considérer plus à son aise. Le fait est que tout l'extérieur de Pierre Petrovitch offrait un je ne sais quoi de particulier qui semblait justifier l'appellation de « futur » si cavalièrement appliquée tout à l'heure à ce personnage. D'abord, on voyait, même on voyait trop, que Pierre Petrovitch s'était empressé d'utiliser son séjour dans la capitale pour « se faire beau » en prévision de l'arrivée prochaine de sa fiancée. Cela, du reste, n'avait rien que de fort excusable. Peut-être laissait-il trop deviner la satisfaction qu'il éprouvait d'avoir réussi dans son dessein, mais on pouvait encore pardonner à un prétendu cette petite faiblesse. Loujine était entièrement habillée de neuf, et son élégance ne donnait prise à la critique qu'en un point. Elle était de trop fraîche date et accusait trop un certain but. De quel respectueux égard le visiteur n'entourait-il pas l'élégant chapeau rond qu'il venait d'acheter ? Quel soin n'avait-il pas de ses jolis gants ?
Jouvin qu'il n'avait pas osé mettre et se contentait de tenir à la main pour la montre. Dans son costume dominaient les tons clairs. Il portait un coquet veston à vannes légers, un pantalon d'été de nuances tendres et un gilet de la même couleur que le pantalon. Son linge tout neuf était d'une exquise finesse et une mince cravate de batiste à raies roses ornait son cou. Pierre Pietrovitch avait, ajoutons-le, fort bonne mine sous ses vêtements et paraissait beaucoup plus jeune que son âge. Son visage, très frais et non dépourvu de distinction, était agréablement encadré de favoris foncés taillés en côtelettes qui faisaient ressortir l'éclatante blancheur d'un menton soigneusement rasé. Ses cheveux grisonnaient à peine et son coiffeur avait réussi à le friser sans lui faire, comme il arrive presque toujours, la tête ridicule d'un marié allemand. Si dans cette physionomie sérieuse et assez belle, il y avait quelque chose de déplaisant et d'antipathique, cela tenait à d'autres causes. Après avoir impoliment dévisagé M. Loujine, Raskolnikov sourit d'un air moqueur, se renversa sur son oreiller et se remit à contempler le plafond. Mais M. Loujine semblait résolu à ne se formaliser de rien, et il feignit de ne point remarquer ses façons étranges. Il fit même un effort pour renouer la conversation. « Je regrette infiniment de vous trouver dans cet état. Si j'avais su que vous étiez souffrant, je serais venu plus tôt. Mais vous savez, je suis si affairé. J'ai de plus un procès très important à suivre au Sénat. Oh, je ne parle pas des démarches, des préoccupations que vous devinez vous-même. J'attends votre famille, c'est-à-dire votre maman et votre sœur, d'un moment à l'autre. » Raskolnikov parut vouloir dire quelque chose. Son visage exprima une certaine agitation. Pierre Pietrovitch s'arrêta un instant, attendit. Mais voyant que le jeune homme restait silencieux, il continua. Oui, d'un moment à l'autre. En prévision de leur prochaine arrivée, je leur ai cherché un logement. Où ? Demanda d'une voix faible Raskolnikov. Oh, à très peu de distance d'ici, la maison Bakaleïev. Oh, c'est dans le Prairioulok Voznesianski, interrompit Razousmikin. Il y a deux étages loués en garni par le marchand Louchin. Oh, j'y suis allé. Oui, on y loue des appartements meublés. Bon, c'est un taudis ignoblement sale et le plus mal famé. Il s'y est passé de vilaines histoires. Le diable sait qui habite là-dedans. Moi-même, j'ai été amené là par une aventure scandaleuse. Du reste, les logements n'y sont pas chers. Ah, naturellement, je ne pouvais pas savoir tout cela, vu que j'arrive de province, répliqua d'un ton piqué Pierre Pietrovitch. Ah, quoi qu'il en soit, les deux chambres que j'ai retenues sont très propres, et comme c'est pour un temps très court... J'ai déjà arrêté notre futur logement, poursuivit-il en s'adressant à Raskolnikov. On est en train de l'arranger. Pour le moment, je loge moi-même en garni. J'habite à deux pas d'ici, chez Madame Lippe-Verschel, dans l'appartement d'une jeune amie à moi, André Semyonitch Libezian-Snikov. C'est lui qui m'a indiqué la maison Bakaleïev. Libezian-Snikov, dit lentement Raskolnikov, comme si ce nom lui eût rappelé quelque chose. Oui, André Semenevitch, le Beldiasnikov, qui est employé dans un ministère. Vous le connaissez? Oh, oui, non, répondit Raskolnikov. Ah, excusez-moi, votre question m'avait fait supposer qu'il ne vous était pas inconnu. Oh, j'ai été autrefois son tuteur. Oh, c'est un jeune homme très gentil et qui professe des idées très avancées. Je fréquente volontiers les jeunes gens. Par eux, on apprend ce qu'il y a de nouveau. » En achevant ces mots, Pierre Pietrovitch regarda ses auditeurs avec l'espoir de saisir sur leur physionomie quelques signes d'approbation. « Mais à quel point de vue ?» demanda la Zouspichine. Au point de vue le plus sérieux, je veux dire au point de vue de l'activité sociale, » répondit Lougine, enchanté qu'on lui eût fait cette question. « Voyez-vous, je n'avais pas visité Pétersbourg depuis 10 ans. Toutes ces nouveautés, toutes ces réformes, toutes ces idées ont bien pénétré jusque chez nous autres provinciaux, mais pour voir plus clairement et pour tout voir, il faut être à Pétersbourg. Or, selon moi, c'est en observant nos jeunes générations qu'on se renseigne le mieux. Et je vous l'avoue, j'ai été charmé. De quoi donc ? Votre question est vaste. Je puis me tromper, mais je crois avoir remarqué des vues plus nettes, un esprit plus critique, une activité plus raisonnée. C'est la vérité, laissa tomber négligemment Zosimov. N'est-ce pas ? Reprit Pierre Pietrovitch, qui récompensa le docteur d'un regard aimable. Vous conviendrez vous-même, poursuivit-il en s'adressant à la Zouzbichine, qu'il y a progrès, au moins dans l'ordre scientifique et économique, au lieu commun. Non, 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 ce n'est pas un lieu commun. Par exemple, si l'on me dit « aime tes semblables » et que je mette ce conseil en pratique, qu'en résultera-t-il ? Se hâta de répondre Lougine avec un empressement peut-être trop visible. Je déchirerai mon manteau en deux, j'en donnerai la moitié à mon prochain, et nous resterons tous deux à demi nus. Comme dit le proverbe russe, chassez plusieurs lièvres à la fois, vous n'en attraperez pas un. La science, elle, m'ordonne de n'aimer que moi, attendu que tout dans le monde est fondé sur l'intérêt personnel. Si vous n'aimez que vous, vous ferez convenablement vos affaires et votre manteau restera entier. L'économie politique ajoute que plus il s'élève de fortune privée dans une société, en d'autres termes, plus il s'y trouve de manteaux entiers, plus aussi cette société est solidement assise et heureusement organisée. Donc, en travaillant uniquement pour moi, je travaille aussi par le fait pour tout le monde, et il en résulte que mon prochain reçoit un peu plus qu'une moitié de manteau. Et cela non grâce à des libéralités privées et individuelles, mais par suite du progrès général. L'idée est simple. Malheureusement, elle a mis beaucoup de temps à faire son chemin, à triompher de la chimère et du rêve. Pourtant, il ne faut pas, semble-t-il, beaucoup d'esprit pour comprendre. Oh, pardon ! J'appartiens à la catégorie des imbéciles, interrompit la Zouzbichine. Ainsi brisons-la. J'avais un but en commençant cet entretien, mais depuis 3 ans, j'ai les oreilles tellement rebattues de tout ce bavardage, de toutes ces banalités, que je rougis d'en parler, même d'en entendre parler devant moi. Naturellement, vous vous êtes empressé de nous exhiber vos théories. C'est très excusable, je ne vous en blâme pas. Je voulais seulement savoir qui vous êtes, parce que, voyez-vous, dans ces derniers temps, une foule de faiseurs se sont rués sur les affaires publiques et ne cherchant jamais que leur intérêt propre, ils ont gâté tout ce à quoi ils ont touché. Allons, assez. Ah, monsieur, reprit Lougine piqué au vif, est-ce une manière de me dire que moi aussi je... Oh, je veux de la vie, comment donc ? Allons, assez, répondit Rosmirine. Et sans plus faire attention à lui, il reprit avec Zosimov la conversation qu'avait interrompue l'arrivée de Pierre Pietrovitch. Ce dernier eut le bon esprit d'accepter telle quelle l'explication de l'étudiant. D'ailleurs, il était décidé à s'en aller au bout de 2 minutes. Maintenant que nous avons fait connaissance, dit-il à Raskolnikov, j'espère que nos relations continueront après votre retour à la santé et deviendront plus intimes grâce aux circonstances que vous connaissez. Je vous souhaite un prompt rétablissement. » Raskolnikov n'eut même pas le temps de l'avoir entendu. Piel Pietrovitch se leva. Oh, c'est assurément un de ses débiteurs qui l'a tué, affirma Zosimov. Assurément, répéta Razousmikhine. Porphyre ne dit pas ce qu'il pense, mais interroge ceux qui avaient déposé les objets en gage chez la vieille. Ben, il les interroge ? Demanda d'une voix forte Raskolnikov. Oui, bien, oh, bien. Mais comment peut-il les connaître ? Voulut savoir Zosimov. Ah, Koch en a désigné quelques-uns. On a trouvé les noms de plusieurs autres sur le papier qui enveloppait les objets. Enfin, il y en a qui se sont présentés d'eux-mêmes quand ils ont appris. Le coquin qui a fait le coup doit être un gaillard adroit et expérimenté. Quelle décision! Quelle audace! Eh bien non, c'est ce qui te trompe et c'est ce qui vous trompe tous, répliqua Razoumikhine. Je soutiens, moi, qu'il n'est ni adroit ni expérimenté, et que ce crime est très probablement son début. Dans l'hypothèse où le meurtrier serait un scélérat consommé, rien ne s'explique plus, tout fourmille d'invraisemblance. Mais si au contraire on le suppose novice, il faut admettre que le hasard seul lui a permis de s'échapper, mais que ne fait pas le hasard? Qui sait? L'assassin n'a peut-être même pas prévu les obstacles. Et comment mène-t-il son affaire? Il prend des objets de 10 ou 20 roubles et embourse ses poches. Il fouille dans le coffre où la vieille mettait ses chiffons. Or, dans le tiroir supérieur de la commode, on a trouvé une cassette renfermant 1500 roubles en espèces métalliques, sans parler des billets. Il n'a même pas su voler, il n'a su que tuer. Je le répète, c'est un début, il a perdu la tête. S'il n'a pas été pris, il doit en remercier le hasard, plus que son adresse. Pierre Petrovitch s'apprêtait à prendre congé. Mais avant de sortir, il voulut encore prononcer quelques paroles profondes. Il tenait à laisser de lui une impression avantageuse, et la vanité l'emporta sur le jugement. Ah, il s'agit sans doute de l'assassinat récemment commis sur la personne d'une vieille femme, veuve d'un secrétaire de collège, demanda-t-il en s'adressant à Zosimov. Oui, vous en avez donc entendu parler? Comment donc? Dans la société? Ah, vous connaissez les détails? Oh, pas précisément, mais cette affaire m'intéresse, surtout par la question générale qu'elle soulève. Je ne parle même pas de l'augmentation croissante des crimes dans la basse classe durant ces 5 dernières années. Je laisse de côté la succession ininterrompue des pillages et des incendies. Je suis surtout frappé de ce fait que, dans les hautes classes, la criminalité suit une progression en quelque sorte parallèle. « Mais de quoi vous inquiétez-vous ? » observa brusquement Raskolnikov. Tout cela, c'est la mise en pratique de votre théorie? Comment de ma théorie? Pas la conclusion logique du principe que vous posiez tout à l'heure. C'est qu'on peut égorger les gens. Allons donc, s'écria Loujine. Non, ce n'est pas cela, remarqua Zosimov. Raskolnikov était pâle et respirait avec effort. Un frisson agitait sa lèvre supérieure. « En tout, il y a une mesure, » poursuivit d'un ton hautain Pierre Pietrovitch. « L'idée économique n'est pas encore, que je sache, une provocation à l'assassinat, et ne se compose en principe. »« Est-il vrai ?» interrompit soudain Raskolnikov d'une voix tremblante de colère. « Est-il vrai que vous ayez dit à votre future femme, alors même où elle venait d'agréer votre demande, que ce qui vous plaisait le plus en elle, c'était sa pauvreté, parce qu'il est préférable d'épouser une femme pauvre pour la dominer ensuite et lui reprocher les bienfaits dont on l'a comblée. « Oh, monsieur !» s'écria Loujine, bégayant de fureur. « Monsieur,
Dénaturer ainsi ma pensée. Pardonnez-moi, mais je dois vous déclarer que le bruit arrivé jusqu'à vous, ou pour mieux dire, porté à votre connaissance, n'ont pas l'ombre de fondement. Et je soupçonne qu'il y a, en un mot, cette flèche, en un mot, votre maman. Déjà, elle m'avait paru, nonobstant toutes ses excellentes qualités, avoir l'esprit légèrement exalté et romanesque. Cependant, j'étais à mille lieues de supposer qu'elle puisse méprendre à ce point sur le sens de mes paroles et les citer en les altérant de la sorte. Et enfin... Savez-vous une chose ? Vociféra le jeune homme en se soulevant sur son oreiller, tandis que ses yeux lançaient des flammes. Savez-vous une chose ?
Quoi ?
Sur ce mot, Lougine s'arrêta et attendit d'un air de défi. Il y eut quelques secondes de silence. Eh bien, si vous vous permettez encore de dire un seul mot au sujet de ma mère, je vous jette au bas de l'escalier. Mais qu'est-ce que tu as ? S'écria la Zoutmikine. Ah, c'est ainsi. Lougine pâlit et se mordit la lèvre. Il étouffait de rage, bien qu'il fît tous ses efforts pour se contenir. « Écoutez, monsieur, commença-t-il après une pause, l'accueil que vous m'avez fait tantôt quand je suis entré ici ne m'avait guère laissé le doute sur votre inimitié. Cependant, j'ai prolongé ma visite exprès pour être plus complètement édifié à cet égard. J'aurais pu pardonner beaucoup à un malade et à un parent, mais à présent, jamais je ne... « Mais je ne suis pas malade !» cria Raskolnikov. « Tant pis, allez-vous-en, et au diable !» Mais Lougine n'avait pas attendu cette invitation pour s'en aller. Il s'était hâté de sortir sans regarder personne, et sans même saluer Zossimov, qui depuis longtemps lui faisait signe de laisser le malade en repos. « Mais est-ce qu'on peut se conduire ainsi ?» dit en hochant la tête Razoubikhine intrigué. « Oh, laissez-moi tout !» s'écria Raskolnikov dans un transport de colère. « Mais allez-vous me laisser enfin, bourreau ?»« Je n'ai pas peur de vous, mais je ne crains personne maintenant. Retirez-vous, je veux être seul !» « Allons-nous-en !» dit Zossimov en faisant un signe de tête à Razoubikhine. « Non, mais est-ce qu'on peut l'abandonner dans cet état ?»« Allons-nous-en !» répéta avec insistance le docteur, et il sortit. Razoubikhine réfléchit un instant, puis se décida à le suivre. Mais notre résistance à ses désirs ne pourrait que lui nuire, dit Zossimov déjà sur l'escalier. « Il faut pas l'irriter. »« Qu'est-ce qu'il a ? » ?»« Bah, une secousse qu'il arracherait à ses préoccupations lui ferait le plus grand bien. »« Il a quelques soucis qui défixent, qui l'obsèdent. »« C'est ce qui m'inquiète beaucoup. »« Oh, ce monsieur Pierre Petrovitch, c'est peut-être pour quelque chose là-dedans. » »« D'après la conversation... » qu'ils viennent d'avoir ensemble, il paraît que ce personnage va épouser la sœur de Rodia et que notre ami a reçu une lettre à ce sujet très peu de temps avant sa maladie. Oui, c'est le diable qui a amené ce monsieur dont la visite a peut-être gâté toute l'affaire. Mais as-tu remarqué qu'un seul sujet de conversation fait sortir le malade de son apathie et de son mutisme ? Dès qu'on parle de ce meurtre, cela le surexcite. Oui, je m'en suis bien aperçu, répondit Razoubikhine. Il devient alors attentif, inquiet. C'est que le jour même où sa maladie a commencé, on lui a fait faire un tour au bureau de police et il a eu peur, et il a eu un évanouissement. Ah, tu me raconteras cela plus en détail ce soir, et à mon tour, je te dirai quelque chose. Il m'intéresse beaucoup, même. Dans une demi-heure, je reviendrai m'informer de son état.
Du reste, l'inflammation n'est pas à craindre. Bon, merci à toi. Maintenant, je vais passer un moment chez Pachenka et je le ferai surveiller par Nastasia. Raskolnikov, laissé seul, regardait la servante avec impatience et ennui. Mais elle hésitait encore à s'en aller. « Boirais-tu ton thé maintenant ?» demanda-t-elle. « Oh, plus tard, je veux dormir, laisse-moi. » Il se tourna par un mouvement convulsif du côté du mur. Nastasia se retira.